Et ce matin, mon sujet, tu demandes à Dieu une chose difficile. Alors, vous connaissez cette histoire. Quelqu'un disait à une autre personne, on a vu ça ensemble il n'y a pas longtemps, tu demandes une chose difficile. Qui est-ce qui a dit ça, après vous? Élie, à qui? À Élisée. Donc, Élisée voyait qu'Élie, c'était vraiment un homme de Dieu. Ça, c'est une chose. D'accord. Il voyait qu'Élisée faisait des miracles, des prodiges, des belles choses, des grandes choses. Donc, on a déjà vu ça, mais j'essaye de revenir sur cette histoire-là pour que nous puissions continuer plus loin. Et Élisée, il voyait une puissance, un esprit sur Élie. Et vous vous souvenez cette histoire, à un certain moment, Élie se tourne vers Élisée et lui dit « Demande-moi maintenant ce que tu veux. » Et Élisée lui a demandé quoi ? Double portion de son esprit. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Double portion de son esprit. Déjà, ce qu'il avait, Élie, c'était beaucoup, hein. Et Élisée, il avait une ambition, il avait la foi, il savait que c'est lui qui va succéder Élie. Élie est devenu un vieillard. Élisée était beaucoup plus jeune, et puis voilà, il est devenu finalement, il était son disciple, mais aussi il est devenu son successeur, un prophète remarquable. Il avait aussi ses difficultés et ses combats. Et il lui demande donc double portion. Et cette double portion, dont vous avez compris, il a reçu le double portion. Il a eu la double portion de l'esprit de d'Élie. Et voilà, il est devenu un homme exceptionnel, puissant. Il a fait des choses extraordinaires. Et nous allons poursuivre donc ce texte dans deuxième livre de Rois, donc le chapitre 2, et le verset 12, 13 et 14. Donc c'est la suite de cette belle histoire. D'accord ? Et vous allez voir, donc, le premier miracle, juste après avoir ramassé le manteau d'Élie, à un moment où il a reçu cette double portion de l'esprit, et là, vous allez voir, Élisée se met tout de suite en action. Il voulait vérifier, il voulait tester si ça marche. On est tous humains, d'accord ? Et le verset 12 nous dit « Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus, donc Élie, il est monté au ciel. Il les déchira, cavalier, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Le verset 13 « Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, d'accord ? Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » On va voir, on va tester si ça va marcher. Humainement, c'est ça. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? Et lui aussi, il frappa les eaux, donc il fait la même chose, ce que Élie a fait devant lui juste un petit peu avant. Donc lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée, pas ça. Il n'y a plus d'obstacle. On va s'arrêter là. Vous savez, donc, aujourd'hui, à notre époque, dans chaque ville, dans des grandes villes en général, souvent, il y a quoi? Il y a un fleuve qui passe par la ville. Et vous savez pourquoi? Parce que longtemps, il n'y avait pas tous ces moyens de locomotion qu'aujourd'hui. Donc souvent, on construisait les maisons là où il y avait de l'eau. Et ensuite, on construisait, la ville s'est développée. Et aujourd'hui, quand on va à Paris, regardez l'aménagement du fleuve, c'est beau. Mais ça sert aussi à quelque chose, au transport, etc. Donc, c'est bien. Mais en même temps, quand vous allez à Paris, regardez tous les ponts. La vie est facile à Paris. Hein. On n'a pas besoin de demander à Dieu que les eaux se séparent. Parce que vous bougez quelques centaines de mètres ou quelques dizaines de mètres, il y a un pont et vous passez de l'autre côté. Et puis vous faites le tour, vous achetez une glace là-bas, et puis vous allez plus loin, et puis de là, vous passez parce qu'il y a des ponts. Vous allez regarder la tour Eiffel, d'accord? Et vous avez un pont là. Et la vie est facile, voilà. On n'a pas besoin de prier. Hein. Moi, je n'ai même pas pensé prier pour que Dieu fasse un miracle, parce qu'il y a tous les... Toutes ces possibilités qui sont là. Mais à cette époque-là, donc déjà le fleuve Jourdain a beaucoup de signification. À cette époque-là, le fleuve était beaucoup plus large que maintenant. Aujourd'hui, vous allez en Israël, le fleuve Jourdain, dans certains endroits, il n'est pas bon, il n'y a rien de bon, voilà, c'est naturel souvent. C'est pas un grand fleuve, mais les spécialistes, les théologiens disent que le fleuve Jourdain était beaucoup, 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 beaucoup plus large et profond. Ouais. Avec le temps, les choses ont changé. Et donc, il n'y avait pas des ponts, hein. Il n'y avait pas les ponts comme ça. Donc, la vie était difficile. Et vous voyez, il y a Élie qui arrive là et il voulait donc traverser le fleuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pris le menton parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Il y avait un esprit surnaturel. Il y avait la puissance surnaturelle. Ce que lui-même, personnellement, ne pouvait pas faire, voilà. Mais il pouvait faire parce qu'il y avait Dieu en lui. C'est pour ça, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais Dieu était avec lui, c'est une chose. Mais ce n'était pas juste intellectuel. Il y avait une puissance. Il y avait quelque chose surnaturel. L'esprit de Dieu qui est omniprésent, tout puissance, Dieu lui-même, il était donc dans la vie d'Élie. Et voilà, Élie pouvait faire des miracles, il passait par ce Jourdain, les eaux se séparaient, et puis lui, en chantant, louant Dieu, en regardant l'eau à droite et à gauche, ben, il passait facilement. Comme toi, tu passes à fleuve, et puis tu passes sur un pont, et tu ne te poses même pas de questions. Voilà, tu fais confiance, tu avances, bah lui, il avançait comme ça. Et puis tout à coup, Élisée se trouve aussi devant, en bord du Jourdain. D'accord? Donc, il se trouve au bord du Jourdain. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. Jourdain était un véritable obstacle et difficulté pour une circulation normale d'un côté et de l'autre côté. Alors, et vous avez compris que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée, hein, dans ces versets-là. L'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Donc, la même chose, lui, il y a un obstacle, il y a un fleuve, il faut passer, il fait un test, oui, mais en même temps, il a fait miracle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que humainement parlant, avec les talents qu'il avait, avec toute sa sagesse humaine, voilà, il ne pouvait pas passer facilement. Donc, il se sert de cet équipement surnaturel et puis ensuite, il passe facilement le fleuve. Très bien, c'est une belle histoire. Maintenant, c'est vrai, il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui croient pas, il y a des hommes, des femmes athées qui veulent expliquer ça d'une certaine façon, voilà, mais nous croyons qu'ici, il y a d'autres choses qui se sont accomplies, si on a vu la manifestation de Dieu, Ah ben voilà, Dieu est tout puissant et il fait ce qu'il veut. Et puis quand Dieu est avec nous, avec lui, nous pouvons aussi faire certaines choses. Donc, il avait un équipement surnaturel pour éliminer les obstacles et les empêchements. Nous avons accepté Jésus-Christ. Toi et moi, à un certain moment, quelque chose qui s'est passé dans ma vie. D'accord ? D'une certaine façon, Dieu nous a parlé. D'une certaine façon, Dieu t'a convaincu. D'une certaine façon, Dieu a répondu à notre soif, le désir, au vide qu'il avait dans notre être intérieur. Je ne peux pas. Je me suis posé la question quand j'étais jeune. Voilà, je voulais goûter autre chose que Dieu. Je ne voulais pas que Dieu fasse partie de ma vie. Et je voulais goûter autre chose. J'ai perdu la paix. Je me suis dit, mais si c'est ça la vie, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Où est mon avenir? Ce n'est pas intéressant de continuer la vie comme ça. Moi, je trouvais ça vraiment fatigant. Pendant 2-3 ans, j'avais un trou dans ma vie, dans ma jeunesse. Et à un moment où, à nouveau, j'ai accepté Jésus, j'ai fait demi-tour et j'ai dit, Dieu, je te demande pardon, je veux que tu fasses partie de ma vie. Et puis, si tu seras avec moi, bah, qui sera contre moi, c'est ça. Et puis, au moment où Dieu est arrivé, a rempli ma vie, il y a l'espoir, l'espérance. On sait que la vie passe très vite et un jour nous vivrons l'éternité dans la présence de Dieu. Voilà. Donc, oui, à un certain moment, Jésus nous a parlé. Ou Jésus nous parle. Ou d'une certaine façon, Jésus nous interpelle. Ou d'une certaine façon, Jésus nous demande d'aller vers les autres pour leur dire, vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de salut. Puisque c'est notre devoir, c'est notre mission. Mais notre combat, à partir du moment où nous sommes sauvés, d'accord, ça c'est formidable. J'accepte Jésus, j'ai une assurance, j'ai la certitude, je suis un chrétien. Je suis sauvé. Ce n'est pas la question d'accepter une religion, ce n'est pas la question d'accepter un mouvement, entrer dans une secte, dans une tradition, mais il est important de découvrir la vérité, la réalité. La vérité, c'est qui ? Ah ben, c'est Jésus. Et par Jésus, nous avons l'accès vers Dieu. Mais la vie continue. À partir du moment où toi ou moi, nous avons accepté Jésus, la vie continue. La vie continue. Les combats sont là. Il faut aller travailler, il faut se marier pour les jeunes, il faut avoir les enfants, la vie continue. La vie continue, toujours avec cette notion, je suis un enfant sauvé, il m'a fait passer de la mort à la vie, il m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Je suis son habitation, je suis habité par Dieu. C'est formidable tout ça, c'est formidable. Moi, chaque matin, je me réveille, je me réjouis. Oh Seigneur, merci parce que je suis ton enfant, tu m'as sauvé. Mais la vie continue, il faut continuer et les combats sont devant nous. Et nos combats sont pas du tout terminés. Regardez chez moi, cette année, chez nous à la maison, on a dû, vous êtes au courant, on devait partir, on avait des voyages qui ont été programmés. Et puis Christiane qui est tombée malade, tant que nous avons mis pour trouver sa maladie, voilà, des solutions, etc. Le temps est passé, et voilà, mais quelque part, c'est une difficulté. Et puis ensuite, ça continue, on a des invités, il y a une voiture qui lâche. Deuxième qui lâche, hein, mais quand je dis lâche, c'est pratiquement fini, vous comprenez? Et vous avez les invités, il y a la femme à moitié cassée. Et vous gérez ça. Ah ben voilà, les Jourdains sont devant nous. Et il faut passer, il faut continuer. Et il faut encourager les autres. Et il faut prier pour les autres, et il faut parler de miracles. Alors il faut passer le Jourdain. Amen. Il y a des jours là. Souvent, nous nous trouvons au bord du Jourdain. Ou je vais galérer devant le Jourdain, je vais pleurnicher, je vais râler, je vais me comporter comme une victime, ou je suis courageux et puis je vais dire, je vais trouver la solution pour traverser quoi? Le Jourdain. L'obstacle. Les empêchements, les difficultés, les épreuves. Alors les Jourdains, ce sont tous ces combats, toutes ces difficultés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un équipement. C'est celui qui est tout puissant, Dieu. Comme Élisée. Oh Seigneur, je vais devoir traverser des Jourdains. Un peu plus tard, un autre fleuve. J'ai besoin d'une puissance. On se tourne vers Dieu. Pour dire tout simplement, je suis équipé, j'ai une force, j'ai une puissance surnaturelle, je vais pouvoir avancer, c'est facile. Mais si tu te trouves devant un Jourdain et tu frappes le Jourdain avec ton menton et puis ça ne bouge pas, tu vas te retrouver toujours dans ton problème, dans tes difficultés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Dieu pour lui dire, « Seigneur, je sais que tu es puissant, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de quelque chose d'exceptionnel, surnaturel, quand je serai limité par le feu du Saint-Esprit, par la présence de Dieu, je veux pouvoir bouger, éloigner les obstacles qui sont devant moi. » Alors, je peux vous donner des exemples. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, puisque nous sommes les chrétiens, tout simplement, dire protestants, catholiques, tout ça, ce sont que des repères, que des appellations. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. C'est Christ, c'est Jésus, c'est la vérité qui va nous sauver. C'est des repères. D'accord? Alors, les Actes des Apôtres, qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 2. On va trouver le chapitre 2 vite fait. Et donc, c'est une histoire, bien sûr, de la Pentecôte. Vous vous souvenez, souvent on parle de ça. Jésus qui devait être aussi enlevé, parti au ciel. Donc, il a dit à ses disciples, à tous ceux qui étaient autour de lui, qui ont passé trois ans et demi avec lui dans une mission, ils apprenaient beaucoup de choses avec Jésus. Il leur a dit, vous restez à Jérusalem, restez là, ne vous éloignez pas, et ensuite vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, quelque chose de surnaturel. Voilà, c'est aussi simple. On va à Jérusalem pour recevoir la puissance, pour ensuite pouvoir traverser les Jourdains, traverser les difficultés, les combats qui sont devant nous. Et vous savez ce qui s'est passé, le monde entier parle de ça, c'est une histoire connue, même par ceux qui ne croient pas. Il y avait la puissance de Dieu qui est descendue sur 120 personnes à Jérusalem. Et vous avez entendu dernièrement parler de l'onction. Quand on parle de l'onction, c'est symbolique. L'huile représente le Saint-Esprit. L'huile, l'onction, ça va de l'huile. On fait couler l'huile. Et l'huile dans l'Ancien Testament, etc., représentait toujours, symbolisait le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit l'onction. Quand vous recevez quelque chose surnaturel de la part de Dieu, voilà, on appelle ça l'onction. Vous êtes oint par le Saint-Esprit. Voilà, et nous avons tous l'accès vers cette bénédiction. Donc le Saint-Esprit est tombé sur 120 personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que cette présence de Dieu attirait les gens. C'est une réalité, on ne peut pas contourner ça. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui discutent. Il y a des gens qui imposent sa façon de voir les choses. Mais pour moi, c'est une réalité. Voilà, ils étaient là, la puissance de Dieu est descendue. Et ensuite, il y a les gens qui venaient de là, de partout, les gens sont venus. Pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et puis il y avait une foule. Beaucoup de gens qui se sont rassemblés à Jérusalem. Ils sont venus d'autres coins du pays. Parce que voilà, ça, cette onction a attiré. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 15 nous dit, quand Pierre était rempli d'une puissance extraordinaire, il était loin, par Dieu Tout-Puissant, il s'élève, et puis je vais juste citer quelques versets, le verset 15 nous dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la troisième heure du jour, c'était le matin. Parce que les gens sont venus, et puis il y en a qui disaient, il y a quelque chose d'exceptionnel, et d'autres disaient, ce sont des fous. Ça criait, ça priait, il y avait des manifestations remarquables. Voilà, avec la présence de Dieu, ils priaient en langue, d'autres en langue, les mystères de Dieu, etc. Certains disaient, il y a Dieu, il y a quelque chose. D'autres disaient, ces gens sont complètement ivres. Et Pierre se lève avec force pour dire, ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit, le même esprit qui était en Élie, le même esprit qui était en Élisée, le même esprit qui est descendu ici sur les 120 personnes. Amen. Donc, dans les derniers jours, dit Dieu, j'y répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, donc par l'esprit de Dieu. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Il a répondu, Dieu a répondu son esprit. Alors les derniers jours, ça continue les derniers jours, c'était pas juste les derniers jours, parce que 2000 ans, nous sommes toujours là. Donc vous voyez, ces derniers jours englobent déjà 2000 ans. 2000 ans, ça continue. Vous pensez que ça, c'était juste une expérience ou un événement unique? Non, ça a été dit, ça a été donné pour le peuple qui traverse, le peuple de Dieu qui traverse tous les siècles. Et aujourd'hui, nous sommes concernés par cette parole. Donc, vous voyez, Pierre disait que cet esprit, voilà, nous est donné. Ça a été déjà prophétisé par le prophète Joël dans l'Ancien Testament. Dieu a prédit. Voilà, ça a été prophétisé, ça a été prévenu, ça a été dit que voilà, la promesse de Dieu viendra. Puis c'était la réalisation de cette parole. Donc le Saint-Esprit est la promesse pour vous et vos enfants. Donc vous avez entendu, je répondrai, la foule... Ensuite, était vraiment touché, donc là, le verset 37, Pierre qui continue son message, son discours, sa prédication, son explication, mais le fait qu'il a reçu la puissance, il était rempli comme Élisée. Vous croyez qu'il avait le même esprit qu'Élisée? Oui? Amen. Pierre et les autres, ils étaient tous remplis d'un esprit, du même esprit, parce que l'esprit omniprésent, même esprit qu'Élisée. Et il se lève et il parle avec l'autorité. Ce n'était pas le discours intellectuel. Ce n'était pas juste l'histoire. Son message était accompagné d'une puissance surnaturelle. L'Esprit de Dieu accompagné, confirmé cette parole qui a été prêchée. Et le verset 37 nous dit, toujours le même chapitre, Pierre, qui poursuivait sa prédication, après avoir entendu ce discours, donc les gens, la foule entendait le message de Pierre. Et puis là, après avoir entendu ce discours, ils eurent quoi ? Le cœur vivement touché. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une prédication intellectuelle, ce n'était pas une prédication historique, ce n'était pas quelque chose d'humain, mais la parole de Pierre était inspirée, confirmée par cet esprit qui est en lui. Et ensuite, c'est l'esprit qui touchait le cœur. Je répète, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, bouleversé. Et ils dirent à Pierre, c'est fort, hein, et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Oh là là! Quelquefois, quand on partage la parole de Dieu, et quelquefois, quand on voit quelqu'un qui a une soif, et quand on vous pose la question, merci beaucoup, oui, tu as raison, il y a quelque chose d'exceptionnel. Oui, Dieu existe. Oui, que dois-je faire maintenant ? Ben, ça vous fait plaisir. Vous avez compris que le message est confirmé par la puissance de Dieu, par Dieu lui-même. Mais ici, il y a beaucoup de monde. Que ferons-nous ? Hommes, frères, que ferons-nous ? Ah, quelle question ! Alors, Pierre, il profite. Et une parole directe, tranchante. Pierre leur dit, le verset 38, « Repentez-vous !» Ce n'est pas le message approprié souvent pour notre époque, mais je ne peux pas contenir, contourner. Je le lis comme ça. Ça vous va ? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause de quoi ? À cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous recevrez après aussi l'Esprit de Dieu comme nous l'avons reçu. Et vous allez pouvoir vivre la même chose, ce que nous vivons. Alors, repentance, c'est un mot qui nous dérange peut-être quand on le prononce comme ça au brut, mais la repentance veut dire tout simplement, c'est comme si que Dieu voulait me dire, écoute Antoine, tu vas dans une mauvaise direction, si tu continues, tu vas mourir. Dieu me dit, repends-toi, ça veut dire change la direction. Ah bon ? Là-bas, c'est la mort, c'est la perdition. Mais oui, je t'aime, je t'interpelle. Arrête-toi, réfléchis, change la direction. Là-bas, c'est la mort, c'est la perdition. Il n'y a pas d'espoir. C'est les tourments éternels. Change la direction. Et tout à coup, j'ai changé la direction. Et j'ai pris la direction. Brice, la vie éternelle. C'est ça, hein, même si on est jeune. Antonia, la vie. Ah, le sourire. Ah, envie de vivre, hein. Pardon, hein. Même s'il y a des combats, il y a des Jourdains. Hein, mais les Jourdains, on va trouver des solutions. On va pouvoir traverser. Et j'ai changé la direction, ma direction. C'est Dieu, ma direction, c'est la vie éternelle, ma direction, c'est la joie, ma direction. Et mon but, c'est de rayonner. L'onction de Dieu qui attire des gens vers nous, parce qu'il y a quelque chose, il y a la joie. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de tristesse. Vous pouvez donner envie aux autres de vivre, parce que c'est tellement fort. Oh. Vous êtes convaincus, vous croyez que c'est une réalité ? Amen. Donc vous voyez, ça c'était la réponse. Que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Et pour qui ? Pour vos enfants. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Et la promesse nous concerne aujourd'hui, moi et mes enfants et mes petits-enfants. Amen. Et pour tous ceux qui sont aux lois et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Une parole prophétique qui concerne le monde entier. Toutes les nations. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Libérez-vous. Sortez de cette perdition, de tout ce qui se passe autour de nous, de ce système. On doit vivre, on est là, il pleut pour tout le monde, mais nous avons droit de choisir la vie ou la mort. Amen. Alors, regardez ce qui se passe plus loin. Donc, Pierre qui s'est levé, voilà, et puis il y avait des Jourdains partout. Et il traversait facilement. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ah ouais, ils étaient interpellés, hein, ils étaient touchés. Hein. C'est la parole, c'est l'Église primitive. Nous sommes là, nous continuons cette mission. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et nous, nous voulons aussi persévérer dans l'enseignement des apôtres. D'accord ? Pour ça, les actes des apôtres, les épîtres. C'est la parole de Dieu pour nous. Rien n'a changé. Donc il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières, l'Église primitive priait beaucoup. Hein. L'Église primitive priait beaucoup, beaucoup. Il y avait beaucoup de prières. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même, vous vous souvenez ? Jésus lui-même s'éloignait souvent. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il priait. Il combattait, il payait un prix, il consacrait beaucoup de temps dans la prière. Et puis nous aussi, nous sommes appelés à prier, intercéder, parce que la puissance de la prière, la puissance d'intercession, voilà, peut changer les circonstances. Vous savez que beaucoup, beaucoup, la vie de beaucoup de personnes autour de nous dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Si tu n'es pas un témoignage, si tu n'es pas un témoin clair, si tu ne reflètes pas cette réalité de la parole de Dieu, comment voulez-vous que les gens acceptent donc Jésus ? Vous voyez ce qui se passe autour de nous. Beaucoup de violence, la haine, etc., la trahison. Et nous sommes là pour faire la même chose que l'Église primitive. Donc il y avait la prière aussi, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de quoi ? Prodiges et des miracles par les apôtres. Beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc vous voyez, ça c'est l'Église primitive. Y a-t-il quelque chose de difficile pour celui qui croit en Dieu, pour celui qui a accepté Jésus? Y a-t-il quelque chose de difficile? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, ben là, je ne vais pas prier parce que c'est difficile? Tu demandes une chose difficile. Et la chose difficile est devenue quoi? Une réalité. Amen. Pour Élisée. Donc la même chose, humainement, il y a des choses difficiles autour de nous. Mais si nous croyons et si nous avons la présence de Dieu en nous, nous pouvons changer, aider, partager le bonheur aux autres. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est ça la mission de Jésus. Alors la dernière chose, je vais vous dire, je vais vous montrer un verset que vous allez voir humainement. Vous allez dire, c'est une chose difficile. Mais on ne s'arrête pas devant une chose difficile, on ne s'arrête pas devant un Jourdain. Pourquoi ? Puisque nous sommes équipés, nous avons des solutions avec Dieu. Amen. Vous croyez ou non ? Amen. Le psaume 2 et le verset 8, vous allez voir, hein, une parole prophétique concerne Jésus, mais Jésus étant nous, et aujourd'hui nous sommes concernés par cette parole. Donc le psaume 2, verset 8 nous dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alors, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, oui, je vais te demander ma famille pour toi. Vous savez, dans les familles, il y a beaucoup de cancans, beaucoup de difficultés, beaucoup de... Aujourd'hui, il y a des blessures, il y a des histoires, il y a des critiques partout. Tellement de difficultés. Quand on touche une famille, c'est rare quand on va très loin sans avoir de problèmes. Et on est là pour apporter des solutions, pour pouvoir aider. Parce que voilà, on s'est éloigné de Dieu, le problème est là. Mais, regardez, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alors on va commencer tout simplement à dire, ma Seigneur, je vais te demander ma famille, déjà pour toi. Je vais te demander mon quartier, les gens qui sont dans mon quartier. Je vais te demander les gens dans ma ville. Je vais te réclamer mon village, ma ville, pour toi. Et si on est audacieux, on va dire, Seigneur, nous te demandons la France pour toi. Qui est pour ? Alors, comme je suis très européen, je vais dire, Seigneur, je vais te demander l'Europe pour toi. Mais comme il y a des gens, des personnes ici, même de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, on va dire, Seigneur, donne-nous les nations, le monde entier pour toi. Dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes qui attendent le message d'espoir et d'espérance. Amen. Mais c'est vrai que nous allons commencer déjà autour de moi. Demande-moi. Alors si tu ne demandes pas, Pierre, si tu ne demandes pas, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura rien. Hein, Carole, si tu ne demandes pas, ça donne quoi ? Rien du tout. Il n'y a pas de choix. il faut demander. Et en demandant, il faut avoir la foi. Les ailes pour dire oui, je suis sauvé. C'est formidable. Hein ? Damien, t'as compris ? Bon. Demande-moi. On va demander. On va se lever ensemble. Et puis ensuite, à la fin, on va chanter le grand chant.